Après avoir reçu dimanche dernier M. Paul Klisch, le président du Front d'Action Populaire, c'est au tour de M. Jean Drapeau, président du Parti Civique, d'accepter notre invitation. Nous n'allons pas présenter le maire Drapeau à la population, surtout quand on sait que de récentes enquêtes ont indiqué qu'il est mieux connu du public que le Premier ministre du Québec et celui du pays. Vous nous permettez quand même de rappeler qu'il a été élu pour la première fois à l'Hôtel de Ville de Montréal en 1954, qu'il a connu la défaite en 1957. Cette retraite forcée de 3 ans l'amena à fonder le Parti civique en 1960 et depuis 10 ans, M. Drapeau préside aux destinées de Concordia. Faut-il énumérer ses exploits? Nous ne le croyons pas. On peut quand même mentionner que le métro, l'Expo 67 et les prochains Jeux olympiques sont les grandes étapes de son administration. Malgré ses réussites, le maire demeure quand même l'objet de critiques, surtout du groupe qui forme le FRAP et qui reproche à notre premier magistrat ses politiques de grandeur. Pour interroger le maire Drapeau, nous avons les mêmes journalistes que dimanche dernier, soit M. Paul Grosdaillon de Montréal Matin et Claude Lavergne de Dimanche Matin. M. Grosdaillon,
Monsieur le maire, nous vivons en ce moment à Montréal des heures assez tragiques. Est-ce que les événements qui se déroulent dans la métropole seraient de nature à empêcher les élections du 25 octobre?
Je ne crois pas. Le ministre des Affaires municipales a bien dit que les élections auraient lieu telles que prévues le 25 octobre. Et je ne pense pas non plus qu'il faille modifier la loi. Et donc, les élections auront lieu dimanche prochain, le 25 octobre.
On fait souvent un grand état du manque d'intérêt public dans les élections municipales. Évidemment, dans le contexte actuel, avec les troubles que nous connaissons, même si nous sommes quand même au moment de l'enregistrement de l'émission vendredi, est-ce que vous ne croyez pas que c'est nature davantage à nuire à cette atmosphère de participation publique à une élection?
Je ne vous cacherai pas que je suis assez mal à l'aise d'avoir à faire une campagne électorale dans les circonstances actuelles. Je sais d'avance que, quelle que soit l'influence que pourrait avoir en fait la situation sur le plus grand nombre, le plus ou moins grand nombre de voteurs qui exerceront leur suffrage, le plus ou moins grand nombre de voix que le Parti civique pourra recueillir, il se trouvera toujours des gens qui pourront dire que c'était la seule question sur laquelle le public s'est prononcé, alors que j'aurais beaucoup préféré que l'élection puisse porter sur l'administration municipale, qu'elle puisse être jugée entièrement à son mérite, et c'est ce que je souhaite bien, que la situation au cours de la semaine qui vient puisse se clarifier suffisamment pour qu'on ne puisse pas dire vraiment avec sérieux que les électeurs se sont prononcés sur autre chose que l'administration. Personnellement, je crois que quelle que soit la situation, les électeurs n'iraient pas jusqu'à réélire une mauvaise administration juste pour dire qu'il y a une situation et donc il faut réélire une mauvaise administration. Quel que soit le résultat, si le résultat est favorable au Parti civique, s'il m'est favorable personnellement, je resterai convaincu que c'est une ratification de l'excellence de l'administration municipale. Mais ça ne pourra pas empêcher des gens de dire que des éléments étrangers ont pu jouer. Je souhaite donc que les électeurs puissent juger uniquement l'administration. Mais dans l'administration, un des éléments, c'est évidemment le maintien de la loi.
Évidemment.
On a, depuis 10 ans de pouvoir, démontré que dans des circonstances difficiles, le Parti civique montre qu'il a le courage, l'entêtement voulu pour tenir en main une situation. Il ne faut pas voter seulement pour ça. Si d'autres sont capables de faire la même chose dans des circonstances difficiles, très bien, et ensuite jugeons l'administration à son mérite et jugeons les programmes à leur mérite.
Justement, quand on parle de l'administration municipale, on parle évidemment surtout des grandes réalisations positives. Je pense que le Parti civique là-dessus a une grande réalisation négative qui est quand même sa présentation d'un rapport particulier devant le gouvernement fédéral en rapport avec la Compagnie des jeunes Canadiens. Là, j'ai la conviction que vous avez dû y penser depuis quelques jours à la vue des événements. Pourriez-vous nous dire dans quelle mesure ça recolle encore davantage aujourd'hui avec les faits que nous connaissons?
Là, c'est évident que la preuve que nous avons établie devant la commission parlementaire, que nous avons finalement forcé à ce moment-là le Parlement d'accorder, cette preuve-là est au point de départ de tous les événements qui se sont passés depuis Mais encore une fois, comme je préférerais de beaucoup que nous consacrions cette émission à la politique municipale depuis 10 ans ou depuis les derniers 4 ans, je préférerais qu'on évite de parler de cette situation tragique.
Je vais rester sur le plan municipal. C'est-à-dire, vous êtes un grand... Vous avez beaucoup de respect pour la démocratie, mais il y a parfois des mots qui semblent vous agacer. Et l'opposition, entre autres, ça a l'air à vous agacer un peu.
Non, ça ne m'agace pas, ça agace les autres. Moi, ça ne m'agace pas, je suis prêt à travailler avec une opposition à l'hôtel de ville. Je l'ai toujours dit. Mais quand je vois jusqu'à quel point ce mot-là, le mot « opposition », agit sur l'esprit de certaines personnes au point de finir par laisser croire que ce qui compte lors d'une élection, c'est d'élire une bonne opposition, je me dis, ça va jouer un mauvais tour. Si tout le monde veut voter pour une bonne opposition, l'opposition va être élue à l'unanimité au pouvoir et on va se retrouver avec un pouvoir sans opposition. Il y a une élection. Le mot le dit, il faut élire. Élire quoi? Des gens en qui on a confiance pour former un bon gouvernement. Et s'il n'y en a pas suffisamment de voix d'élus pour être du côté du pouvoir, c'est... En somme, l'opposition, c'est le résidu du verdict populaire. Un bon résidu ou un mauvais résidu, c'est pas parce que les gens siègent dans l'opposition qu'ils sont nécessairement meilleurs que ceux qui siègent au pouvoir.
Mais monsieur le maire, évidemment, on comprend que la tentation d'un politicien et d'un chef d'État... de gouverner avec une solide majorité est toujours importante, mais vous n'avez pas l'impression quand même qu'une opposition qui ne soit pas systématique, qui ne soit pas désordonnée, qui ne soit pas partisane, est quand même de nature à peut-être éclairer davantage certains aspects de l'administration que, sans vouloir les cacher, vous n'auriez pas tendance à mettre en avant parce qu'on ne vous le demande pas ou parce que vous n'êtes pas poussé dans certains retranchements.
À la question que vous posez dans sa forme actuelle, je vous réponds oui. Mais vous prenez la précaution de dire une opposition qui n'est pas systématique, qui n'est pas ça. Mais justement, une fois que les élus siègent dans l'opposition, ça devient de l'opposition systématique. Et ils ne sont pas des anges parce qu'ils sont dans l'opposition. Ils insinuent, ils accusent, ils font de la démagogie. Et tout ça, ce sont des armes qui sont reconnues comme les armes de l'opposition.
On a parfois l'impression, monsieur le maire, malgré tout, je pense que c'est un des reproches qui a été adressé à votre administration, qu'au sein de l'équipe du Parti civique, vos hommes, vos candidats, vos échevins, vos conseillers, ne participent pas intensément à l'administration. On a un peu l'impression parfois qu'ils sont plus là pour appuyer les décisions prises que pour participer à l'élaboration des décisions. C'est un des reproches.
Oui, je sais bien que c'est un des reproches qui nous sont faits. Cependant, il y a une chose, c'est que les membres du Parti civique sont, depuis la fondation, depuis 60, ou depuis 62 ou 66, suivant le cas, et je dois dire qu'il y en a deux qui ont voulu donner l'impression qu'ils partaient en claquant les portes. Ouais. Deux. Eh bien, dans les deux cas, c'est pas ça du tout la situation. Et ça leur aurait pris 10 ans d'abord pour s'apercevoir qu'ils n'étaient pas libres. Vous savez, je ne veux pas déprécier des collègues avec lesquels nous avons travaillé. Oui. Non. Leur réaction, je la comprends, mais qu'ils aient tout à coup, après 10 ans, senti qu'ils n'étaient pas libres.
Oui, évidemment, on peut avoir pas de réflexion assez longue.
Et tous les autres, là, qui sont quand même des gens qui réussissent en affaires, tous des gens qui ont des moyens connus de gagner leur vie, qui ont leur personnalité, qui sont de diverses activités, depuis les activités manuelles jusqu'aux activités intellectuelles. Par exemple, M. Lortie, qui a été 4 ans avec nous au Parti civique, je peux en parler, c'en est un qui a annoncé lui-même qu'après avoir servi tant d'années au Conseil, il allait se consacrer à autre chose. Vous pensez qu'il aurait, lui, accepté de servir tout simplement de tampon? Jamais de la vie. Les autres non plus. Il y a des hommes d'affaires sérieux dans le Parti civique.
Tant qu'à vider cette question, je m'excuse, je ne peux pas accaparer la conversation. Tant qu'à vider cette question, on semble avoir reproché également, si vous voulez... à votre équipe, de ne pas être très représentative des différentes couches sociales de la société montréalaise. Le fait, par exemple, que M. Clich signalait la semaine dernière, que vous n'allez pas nécessairement chercher des candidats dans les couches populaires, que ce sont essentiellement des bourgeois, pour employer le terme, je pense, qui a été servi la semaine dernière.
Est-ce que ce n'est pas la même chose dans tous les parlements? Et à qui la faute? Si c'était possible de faire élire, disons, des chefs ouvriers, vous pensez que les chefs ouvriers ne se présenteraient pas?
Mais ils se font élire dans leur cellule, dans leur...
Oui, mais je dis là, à une élection, il semble que c'est le même phénomène qu'on retrouve à toutes les élections. Il semble qu'il soit extrêmement difficile de faire élire des travailleurs manuels. Les travailleurs manuels ne votent pas pour les travailleurs manuels aux élections générales, ni fédérales, ni provinciales. C'est toujours des cas d'exception. Et puis, spontanément, les travailleurs manuels ne sont pas portés à vouloir devenir des serviteurs publics élus. Il y a peut-être un état d'esprit à ça. C'est que, très souvent, par conscience professionnelle, l'ouvrier va craindre de n'avoir pas les éléments de formation qu'il faut ou l'instruction qu'il faut. C'est purement psychologique. Il pourrait rendre des services, mais il ne se sentirait pas capable, la plupart du temps, de rendre les services. On dirait qu'il admet qu'il faut quand même une préparation, qu'il est plus facile à d'autres de croire qu'ils ont. Et alors, c'est un phénomène psychologique qui n'appartient pas qu'au Parti
civique. Il y a eu de brillantes exceptions, quand même.
Pardon?
Il y a eu de brillantes exceptions.
Exactement.
Je pense à mon ami Bellemare, par exemple.
Exactement. Non, j'ai dit que ça n'est pas vrai dans tous les cas, mais c'est vrai suffisamment pour réduire le nombre. Et le Parti civique, comme les autres partis, hérite d'une situation qui dure depuis des générations.
Mais tout de même, M. Drapeau, vous ne trouvez pas... est-ce que chez vous, là, ça n'amène pas une certaine gêne d'arriver d'arriver, par exemple, avec une liste de 52 candidats? Vous dites, mes candidats, voilà la liste. Alors, c'est vous qui les choisissez.
Oui, mais j'ai cette année, par exemple, un mécanicien débosseur qui a son propre garage au district de Saint-Michel, travailleur manuel. J'ai dans Saint-Henri, un distributeur de la chauffeur qui continue le commerce de son pain. Il distribue de l'huile, un boyau. Bon. Et j'en ai d'autres. Alors, ça, encore une fois, il faut trouver des gens qui ont une prédisposition. Et ce ne sont pas des gens qui sont venus me voir. Il a fallu aller les chercher et les convaincre. Et les convaincre de se joindre, qu'ils étaient capables de rendre service.
Je pense bien que personne ne doutera de l'efficacité du Parti civique au cours des 10 dernières années. Mais il y a une chose qui diffère énormément de cette élection de cette année par rapport aux autres antérieures, c'est qu'on avait l'habitude de penser bien moins Parti civique qu'équipe Drapeau-Saunier. Or, M. Saunier n'y est pas. Dans votre série de candidats, évidemment, vous n'avez pointé personne encore, que je sache du moins, qui pourrait remplacer M. Saunier et qui sera le président de l'exécutif, sachant que le poste de président de l'exécutif est tellement important et au point de vue administratif, disons, à peut-être préséance d'après la charte sur le maire, il n'y a peut-être pas lieu, je pense, de se poser certaines questions de notre part et de la vôtre, peut-être, de demander à Québec de changer un peu les mécanismes pour l'avenir.
J'ai déjà eu ce problème il y a 10 ans, quand j'ai formé le premier comité exécutif, en 60, après l'élection du Parti civique. Il a fallu que je trouve dans mon parti, dans les élus, il y en avait 45 ou 46, 6 collègues que j'invitais à former le comité exécutif. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé d'administrer la ville dans la juridiction réservée au comité exécutif. Il est bien évident que le remplacement de M. Saunier n'est pas une chose facile. Chaque homme a son style, chaque homme projette une image. Nous avons projeté l'image d'une équipe, avec les avantages et les désavantages de ce style. Il y avait un avantage qui est bien connu, ça donnait l'impression, et c'était vrai, que l'un complétait l'autre. Bon. Seulement, c'est également un désavantage, parce qu'avec le temps, en 10 ans, l'image double que nous avons projetée n'est pas juste, n'est pas totale,
oui,
n'est pas complète, n'est pas précise dans le cas de l'un comme dans le cas de l'autre.
Voulez-vous laisser entendre que vous allez changer le style?
Ben voici, à partir du moment où il en manque un, c'est bien évident que le style change.
Le style va changer.
Bon. M. Saunier passe pour être le surintendant ou l'intendant rigide,
il y a les cordons de la bourse,
sans cœur, qui n'est pas intéressé aux choses culturelles, qui n'est pas intéressé aux grands projets, alors que pendant 10 ans, fallait qu'il soit suffisamment intéressé pour travailler à leur réalisation avec moi. Et inversement, j'ai passé pour le cascadeur, le trapéziste.
L'idéateur.
Oui, mais plus que ça, le trapéziste, hein, qui amuse. Oui. Et j'étais quand même assez réaliste pour savoir que les éléments important de la réalisation étaient les structures financières, les contrôles et tout ça. On n'aurait pas pu travailler 10 ans et se laisser actuellement défaire, pas se laisser, parce qu'on va continuer à travailler ensemble, mais disons, défaire l'équipe parce qu'il laisse l'administration municipale pour passer à une administration intermunicipale où nous allons pouvoir continuer de travailler ensemble. Mais déjà, à partir du moment où l'équipe est désorganisée, c'est bien évident que le style va changer. Monsieur Trudeau est premier ministre du Canada et chef du Parti libéral. Monsieur Louis Saint-Laurent était premier ministre du Canada et chef du Parti libéral. On ne dira pas qu'ils ont le même style ni la même image.
Absolument pas.
Bon. Et plus près de Monsieur Trudeau, Monsieur Pearson. Et Monsieur Robert Bourassa ne projette pas la même image que Monsieur Lesage. Et Monsieur Bertrand ne projetait pas la même image que Monsieur Johnson.
Non.
Bon. Alors, c'est évident que, non seulement dans la vie publique, mais, mon Dieu, qu'il s'agisse de joueurs de hockey, chacun a son style, pourquoi pas employer le même mot chez les hommes publics, que ce soit des sportifs, des artistes, que ce soit des administrateurs publics, que ce soit des animateurs de programmes, chacun projette une image. C'est évident que le public devra faire un effort. Les journalistes devront faire un effort. Les caricaturistes devront lancer d'autres traits de plume. Quand M. Saunier est arrivé dans la vie publique...
C'est chaque fois quand on a bien un dessin, là,
ah oui.
Poser des problèmes à nos gens.
Chacun a sa tête.
Moi, s'il fallait qu'un jour je décide de porter des verres contacts et de vous couper la moustache, mais tout est à recommencer.
Vous portez la perruque.
Bon. Donc, il y aura un nouveau style. C'est évident. Une nouvelle image. Mais je maintiens que l'image projetée jusqu'à présent est injuste pour M. Saunier, mais elle est injuste pour moi. Disons qu'elle est injuste dans le sens qu'elle est incomplète.
Elle a bien servi,
j'ai dit. C'est pour ça que c'est un des avantages qui est largement compensé par l'avantage dans les faits que nous sommes complétés. Et ça sera ma responsabilité de chef de parti et de chef de la prochaine administration si, comme je le souhaite et que je l'espère et que j'ai des raisons de croire, je serai appelé à former la nouvelle administration. Ça sera ma responsabilité de tenter de mettre en scène une administration qui s'efforcera de faire aussi bien que la précédente, dans des conditions qui ne seront pas les mêmes. Il n'y aura pas seulement le style. Moi, je crois que même si M. Saunier était resté, le style aurait pu changer parce que la nouvelle décennie ne ressemblera pas à la précédente.
Mais croyez-vous pas quand même que la situation est aussi injuste pour l'électeur lui-même qui, actuellement, est appelé, quoi qu'il arrive, à élire un président du comité exécutif qui, pour l'instant du moins, est sans visage et sans nom.
Oui.
Et c'est son administrateur général.
Non. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'après la charte, c'est le maire qui est le responsable de l'administration. En ce sens qu'il désigne les membres du comité exécutif. Il soumet son choix au conseil, qui peut le rejeter ou l'accepter, mais à partir du moment où il a la majorité, il prend donc la responsabilité de former un gouvernement. Et ensuite, il propose l'élection d'un président, il propose l'élection d'un vice-président. Alors, c'est la responsabilité du maire. Et si l'administration est mauvaise, la population dans l'ensemble... C'est le seul cas où la population dans l'ensemble peut atteindre le responsable de l'administration. Parce que, autrefois, dans les administrations antérieures à 1960, si toute une administration, toute une population, un électorat, était absolument contre un président du comité exécutif, il ne pouvait jamais atteindre le responsable de sa nomination ou de son choix. Parce qu'une fois que les conseillers étaient élus, c'était quand même une surprise de savoir qui allait être élu. C'était, et on se souvient des élections de 54, des élections de 57. Alors, c'était la même chose avec le danger que le peuple, non seulement ne puisse pas savoir, mais finalement, ne puisse pas avoir quelqu'un de responsable qu'il pourrait punir en le chassant du pouvoir 4 ans après, s'il ne pouvait pas trouver le moyen de former parmi les conseillers qu'il présente, une bonne administration. C'est une responsabilité de plus que la loi a confiée aux maires.
Monsieur le maire, dans cette curieuse élection, vous savez, ce qu'il y a vraiment étrange, c'est que même vos adversaires reconnaissent vos qualités, vos talents, votre administration. Alors, mais seulement, ils voudraient que vous changiez vos priorités, que ça aille plus du côté social et moins peut-être vers d'autres choses.
Alors là, je suis très content qu'on soulève cette question, parce que faut pas oublier là, que la vie politique municipale et la vie du Parti civique ne commence pas en 1970. Elle a commencé en 1960. Nous avons soumis à l'électorat ce que nous entendions faire. L'électorat l'a accepté. En 1962, nous avons soumis à l'électorat ce que nous entendions faire. L'expo, d'abord le métro en 1960, nous l'avons commencé. et nous avons, en 62, dit « nous irons chercher l'expo ». Nous avions commencé les démarches, nous avions obtenu un rapport favorable des comités, sous-comités du Bureau international, et l'exposition universelle a été soumise à la population en 62. La population l'a tellement voulu qu'elle m'a élu à 89% des voix. Et en élisant 41 conseillers sur 45 du Parti civique. Alors, ce que nous avons fait quand nous sommes allés chercher l'expo, que nous l'avons présenté, c'était conforme à ce que 89% de la population voulait. Et 41 conseillers étaient élus pour exécuter ça. Nous n'avons donc pas imposé l'expo au peuple. En 66, nous avons dit, nous irons chercher les Olympiques. Alors, si nous sommes allés chercher les Olympiques, le peuple s'est prononcé. Et j'ai été élu à 94,6% avec 45 d'élus sur 48 candidats. Alors, si on veut me reprocher une politique de grandeur, c'est pas à moi qu'il faut la reprocher, c'est au peuple.
Non, mais je pense, M. le maire, que le public est très content de ces choses, d'une façon générale, très fier de son expo, très fier de son métro, très fier d'avoir les Olympiques, tout ça, c'est du prestige. Mais est-ce que ça ne devrait pas exclure
certains secteurs?
Si vous
me permettez, non, je vous interromps tout de suite. Tout ça, c'est pas du prestige. Tout ça, c'est pas du prestige. C'est grâce à ça qu'on a pu réduire au plein emploi le 10% de chômage qu'il y avait quand on a été élu en 1960. Mm-hmm. Et ça, c'est pas du prestige, faire travailler le monde.
D'accord. Bon.
Le métro, c'est pas du prestige. C'est pas les gens riches qui vont y
avoir. Non, c'est des jobs. Ça fait travailler les gens.
Non seulement ça fait travailler les gens, mais les gens qui travaillent voyagent dans des conditions plus commodes.
Oui, d'accord.
Alors, ça, si on avait manqué de sens social, on avait promis une ligne. On en a donné trois. On en a donné avec l'argent du peuple. Mais de toute façon, avant, les gens le savent, ils payaient des taxes puis il n'y avait rien.
Ouais, vous les avez réalisés quand même.
Bon, on a réalisé, il y a 50 ans que c'était promis. Et le métro, c'est à la disposition du peuple qui s'en sert tous les jours. Bon. L'expo, on n'a pas eu là 50 300 000 visites faites par des gens riches. C'est le peuple qui est allé, puis c'est le peuple qui a trouvé ça bien, puis c'est le peuple qui en a bénéficié. Et quand on a continué Terre des Hommes, si ça n'avait été que du prestige, croyez-vous que l'opinion publique aurait forcé trois gouvernements à reculer lorsqu'on a annoncé qu'on devait fermer à la fin janvier 69? Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial avait dit on ne peut rien faire et on ne fera rien. Et nous avons dit dans les circonstances, étant donné ce que ça coûte, étant donné ce que ça produit au pays et ce que ça rapporte aux produits et à la province, nous ne pouvons pas faire supporter ces investissements par les Montréalais seulement. Nous avons annoncé que nous fermions Terre des Hommes. Mais c'est l'opinion publique qui a forcé trois gouvernements à s'entendre et à trouver une formule pour que ça roule. Alors, si ce n'était que du prestige, la voix du peuple, ce serait-tu? Alors, où est-ce que c'est le prestige? Je voudrais bien, moi, parce que ça c'est fondamental.
C'est fondamental, d'accord,
le peuple a le droit d'avoir comme denrée de tous les jours quelque chose pour son esprit, du confort, et des choses agréables. Il a ce droit-là autant que les gens riches. Et si les gens riches peuvent voyager dans de beaux avions, de beaux trains, de beaux autobus, pourquoi celui qui travaille et qui prend un moyen de transport en commun deux ou quatre ou six fois par jour ne pourrait-il pas avoir le droit, lui, d'avoir un beau métro confortable? Et s'il n'y a pas les moyens de se payer des tours du monde ou des voyages et des vacances en dehors de Montréal, pourquoi ne pourrait-il pas, pendant sa semaine de vacances ou ses deux semaines de vacances ou ses soirées d'été, aller dans un endroit qu'il a les moyens de fréquenter?
D'accord.
Justement. Alors, c'est pour ça que je veux absolument qu'on cesse d'appeler ça des choses de prestige. Parce qu'on fait le jeu des révolutionnaires. Ouais. C'est inconscient. Mais les révolutionnaires, ensuite, citent les hommes de pensée, citent les éditorialistes, citent les panélistes.
Justement,
c'est ça la grande question.
Vous parlez du métro. Il y a un point, peut-être, dans tout le programme du FRAP que j'ai retenu, je l'ai souligné d'ailleurs à M. Clich la semaine dernière, point que vous n'avez pas semblé retenir au cours de votre administration, malgré la multiplicité des promesses. La réduction du tarif dans le métro et dans le transport en commun pour les gens âgés, les pensionnés. Pourtant, la chose s'est réalisée à Toronto le 1er janvier dernier. Expliquez-nous donc pourquoi vous n'avez pas pu le faire, si vous ne l'avez pas fait.
Servant, c'est très simple. Depuis 10 ans, nous nous sommes employés à l'administration municipale à sortir du budget municipal ce qui n'était pas une responsabilité municipale. Tout ce qui est loi sociale. Ça nous a pris 10 ans. Et maintenant, tout le bien-être social a été accepté comme responsabilité provinciale. Même le paiement, le remboursement du paiement des employés On réfère, je comprends que c'est confus pour le public, ça. On réfère au service du bien-être social de la Ville de Montréal. Mais il agit comme agent du gouvernement provincial. Et chaque fois qu'il est rumeur que ce département, que ce service municipal pourrait être rattaché au fonctionnarisme provincial, tous les employés de la ville de ce service-là s'opposent. Et quant à nous, ça nous est indifférent. Bon, alors ça demeure des employés municipaux, mais le service agit comme agent de la province au ministère du Bien-être social, pour le ministère du Bien-être social et de la famille, et toutes les dépenses de ce ministère sont remboursées par la province, incluant le salaire des employés. Ça nous a pris 10 ans. Quand je suis arrivé au pouvoir à l'Hôtel-de-Ville, en 1954, il y avait des promesses de fait pour 12 millions et demi d'octrois à des universités, des collèges, des hôpitaux. Dès 1954, j'ai affirmé à tous ces gens-là qui passaient me voir pour chercher leur chèque, parce que ça avait été promis par des administrations antérieures, je dis ça, ça n'est pas municipal. Allez frapper ailleurs. Ça ne m'a pas donné une bonne réputation de sens social. Mais comme j'avais été élu pour administrer des fonds municipaux et que je réalisais que ça n'avait pas de sens d'emprunter sur le crédit des Montréalais pour donner à des institutions dont l'existence et l'opération doit relever d'un autre gouvernement, nous avons dit non. J'ai été battu en 1957. Les mêmes solliciteurs sont venus à ce moment-là à l'Hôtel de Ville, après mon départ, voir mon successeur. Les promesses ont été renouvelées, mais il n'y a quand même pas eu un sou d'octroi de donner pour ces fins-là pendant les 3 ans. Quand nous sommes revenus en 1960, ça faisait un problème de régler. Mais il y a eu que le gouvernement de la province a accepté ses responsabilités dans le domaine de l'éducation et de l'hospitalisation. Et Montréal n'avait donc plus à envisager comme responsabilité d'emprunter ou de taxer les Montréalais pour donner des octrois à des institutions dont le fonctionnement doit relever et le financement d'un autre gouvernement. Alors, depuis 1960, nous avons continué dans ce domaine-là et tout ce qui est loi sociale doit être provinciale ou fédérale, qui s'entendent, mais pas municipale. Alors, dans le cas du transport en commun, hein, la commission de transport de la communauté urbaine, ça n'est plus que Montréal, c'est toute la communauté urbaine maintenant, les 29 municipalités de l'île. Le comité exécutif de la communauté urbaine est unanime, les 12 membres, donc les représentants des municipalités de banlieue sont solidaires de nous, nous sommes solidaires d'eux, et c'est notre pensée, qu'il y a là un problème à caractère social. Et alors, comme il est prouvé que ça va coûter de l'argent, au départ, on dit que ça ne coûte rien faire transporter des gens. Bien, c'est prouvé que dans toutes les villes où ça existe, ça coûte de l'argent. On pourrait dire que ça coûte 2 millions, 4 millions, 3 millions, mais le principe est admis, ça coûte de l'argent. Bon, si ça coûte de l'argent, nous avons dit, la communauté urbaine, dans un rapport du comité exécutif de la communauté urbaine, présenté par le président M. Saunier, qu'à l'unanimité, le comité exécutif de la communauté urbaine, nous étions tous sympathiques à cette situation et que nous espérions que la solution pourrait être trouvée, mais que le coût apparaîtrait à un autre budget qu'au budget du transport. Il n'appartient pas à la commission du transport, à la régie du transport, de faire du bien-être social. Alors, qu'on ne dise pas que nous sommes contre, c'est de l'administration ordonnée. Si c'est une aide sociale, il faut que ça passe par un autre budget qui n'est pas municipal et qui n'est pas intermunicipal.
Mais ne croyez-vous pas que si vous dégagiez autant d'efforts que vous l'avez fait pour Terre des Hommes, pour obtenir, par exemple, l'assistance de Québec et d'Ottawa pour la survie de Terre des Hommes, dans ce domaine du transport pour nos plus âgés, que vous arriveriez quand même rapidement à certains succès? Parce que les gens qui sont dans le besoin, quand même, les plus âgés, n'ont pas le temps d'attendre des chinoisies administratives. Ils vieillissent et ils meurent rapidement.
Je sais bien qu'on pouvait blâmer Maurice Richard pour ne pas faire compter... pour ne pas compter tous les points qui auraient permis de gagner toutes les parties. On attend toujours plus de ceux qui comptent le plus de points. Si on me reproche de ne pas avoir fait ce que des gens s'amusent à appeler plus de miracles que j'en ai fait, ben mon Dieu va accepter de ne pas être aussitôt mature qu'on veut bien m'étiqueter. Mais il faudra admettre quand même que la justice sociale exigerait qu'on ne soit pas plus exigeant envers celui et ceux, puisque je dirige un parti, tous ceux qui, dans mon parti, et dans l'administration à laquelle j'ai participé, ont fait tout ce qu'ils ont pu Et comparé à ce qui s'est produit pendant des années et des années avant nous, il est bien établi qu'il s'est fait infiniment plus pour l'argent payé depuis 10 ans que pour n'importe quelle période correspondante et même beaucoup plus longue avant. Alors, c'est une curieuse situation que de se faire reprocher de ne pas avoir fait plus de miracles qu'on était capable de faire.
Monsieur le maire, vous avez mentionné tout à l'heure là, que le peuple a voulu l'Expo, le peuple a voulu le métro, le peuple veut les Jeux olympiques. Est-ce qu'il pourrait arriver que dans les années 70, le peuple veuille autre chose, comme par exemple la démolition des taudis à une plus grande rapidité?
Je vais vous poser une question. Combien avons-nous voté? Et je vous dis tout de suite, ça se chiffre en millions de dollars. Combien avons-nous voté de crédit pour la rénovation urbaine?
C'est 250, je crois.
Hein? On a voté autant de millions que pour bâtir le métro. Mais ça paraît pas autant. Ça peut pas, pour la bonne raison qu'il est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide de faire des îles en plein Saint-Laurent. Et en 10 mois, je peux vous promettre, moi, qu'on va remettre en n'importe où dans le Saint-Laurent 22 millions de tonnes de roc et de terre en place, puis on va faire 2 autres îles. En 10 mois. Mais quand il s'agit de déplacer des êtres humains qui habitent des logements, même des taudis, même des logements délabrés, ça ne peut pas matériellement, physiquement, mais surtout humainement se faire à coût de 10 000 par année. Ça n'est pas possible. Ce sont des familles, ce sont des êtres humains qu'on ne peut pas mettre dans la rue pendant qu'on démolit et qu'on rebâtit. Alors, nous avons mis au point, tout en ayant des centaines de millions de dollars de voter pour ça, mais pour en arriver là, nous avons mis au point la formule de logement la plus sociale qu'il n'y a pas sur le continent nord-américain. Et nous avons réussi, ça a pris du temps, à mettre au point les mécanismes maintenant qui vont permettre à cette formule de s'établir, de s'exercer d'une façon absolument systématique et continue, comme il est continu de fournir de l'eau, des égouts, des pavages, des trottoirs. Ça va se faire maintenant d'une façon systématique et continue, jusqu'à ce que tous les citoyens de Montréal soient logés convenablement.
Mais qu'est-ce que
et quand ça sera fait, hein, quand ça sera terminé, et c'est la phase ingrate dans le moment, ça ne paraît pas encore assez, mais quand ça sera terminé dans quelques années, parce qu'un jour, ça se terminera, eh bien, les gens viendront, les administrateurs publics viendront, ils ont commencé de venir voir la réalisation de la Petite-Bourgogne, mais sur une grande échelle, des délégations viendront de toutes les villes du monde à Montréal pour apprendre comment ça se fait socialement, humainement, de la rénovation sociale, comme ils viennent voir comment on fait de l'urbanisme souterrain, comment on fait le métro et comment on tient une ville.
Quel est le terme de ce plan, excusez-moi, monsieur, le terme de ce plan de relogement, si vous voulez, des familles qui habitent des taudis, c'est assez dans sur quelle période cette rénovation urbaine, elle est permanente, je comprends, mais...
Ça se fait systématiquement, oui. Au besoin. Oui. Parce que en plus de rebâtir, de rénover ou de bâtir, de maison nouvelle, il faut tenir compte que la politique, j'ai bien dit, c'est la politique la plus sociale, c'est que dans tous les cas où des propriétaires de maisons délabrées consentent à rénover, à restaurer leur maison, conformément aux règles d'hygiène et d'urbanisme, pour en faire des logements que les familles seraient heureuses d'habiter et qui répondraient aux exigences de tous nos services, eh bien, nous favorisons par des subventions. De sorte qu'il n'y a pas de statistiques. Dans la mesure où cette nouvelle formule que Montréal est la seule ville aux États-Unis et au Canada à appliquer, et cette formule-là est nouvelle, les citoyens de Montréal sont les seuls à payer ces octrois-là, ce qui revient quand même meilleur marché que d'investir des millions pour bâtir, et qui donne beaucoup plus rapidement des conditions convenables, salubres et agréables de logement. Cette formule-là, maintenant, commence à attirer l'attention au point que les gouvernements supérieurs l'observent et les pressions que nous entendons faire vont permettre d'envisager que ce soit une formule acceptée, que les gouvernements modifieront les lois pour contribuer avec la Ville de Montréal financièrement à accroître le rythme de la restauration dans ces conditions-là. Parce qu'en somme, quand on dépense 200 millions, c'est les contribuables qui payent. S'il y a moyen d'encourager par des octrois, par des subventions minimes, des propriétaires à restaurer leur maison et à en faire. J'en ai visité en Pointe-Saint-Charles. des maisons qui étaient des vieilles maisons délabrées. Et par accord entre les propriétaires et les autorités de la ville et le service du logement et de l'urbanisme et notre service des permis d'inspection, j'ai vu là des logements qui sont de première classe et que les familles aiment habiter.
Est-ce que les prix des loyers augmentent à ce moment-là?
Non, tout doit être absolument conforme à la loi d'habitation.
Et le cachet se garde.
Le cachet se garde. Et ça fait des contributions formidables à la restauration dans un quartier sans tout démolir. Mais ça, nous sommes la seule ville. Et là, nous avons un service d'habitation. C'est nous qui l'avons créé, le service d'habitation. Ce n'est pas rien qu'un mot. C'est une chose pleine d'activité, pleine de production.
Monsieur le maire, est-ce que ça signifie, par exemple, qu'au cours du prochain mandat, si vous êtes élu, que les Montréalais pourraient voir plus de réalisations dans la restauration urbaine qu'ils n'en ont observé, par exemple, dans les 10 années précédentes?
C'est bien évident. C'est que la phase la plus ingrate est terminée. Vous savez, quand un gros édifice se construit, les gens passent, ils voient une clôture, là, il n'y a rien qui monte. Il faut faire l'excavation. Il faut construire le coffrage, couler le béton, faire des tas de travaux souterrains. Et tout à coup, quand ça commence à monter, mon Dieu, ça monte de semaine en semaine, on dit, gardons ça à quelle vitesse ça monte. Ben, dans la législation, dans la mise au point de formules nouvelles comme celle-là, et que nous voulons systématiques, si nous avions voulu donner un spectacle, nous aurions pu avoir quelque chose de très spectaculaire, et je pense que vous auriez pu me faire confiance, on aurait fait quelque chose de
spectaculaire. On fait complètement confiance.
Mais monsieur le maire, justement, ce n'est pas du spectacle qu'on voulait vous donner. Il y a là un problème social, et nous l'avons toujours envisagé comme ça. Là, la phase la plus ingrate est passée, et il est évident qu'au cours des 4 prochaines années, Montréal va se faire remarquer plus par ça, parce que le public et tous les observateurs et les journalistes et les reporters s'habituent vite à nos expos qui jouent au baseball, à Terre des Hommes, à tout ça, et ils vont chercher qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Puis ils vont s'apercevoir qu'il se fait ici une rénovation urbaine comme il s'en fait nulle part ailleurs dans le monde.
Monsieur le maire, est-ce que, imaginons que vous êtes réélu aux élections du 25, est-ce qu'un jour, vous seriez aussi fier de faire visiter la ville de Montréal aux autres maires des grandes villes nord-américaines, vous seriez aussi fier de leur dire Montréal n'a pas tout dit que de leur dire Montréal a un beau métro?
Je serais certainement beaucoup plus fier encore. Beaucoup plus fier encore. Et ce que je veux tendre à réaliser ici dans la rénovation urbaine, c'est d'éviter des ghettos. Vous savez, je ne veux pas donner de cas précis pour ne blesser personne. Mais quand des personnes habitent comme en Russie, par exemple, j'ai vu à Moscou, j'avais demandé à l'interprète qui m'accompagnait un jour si je pouvais avoir son adresse pour lui faire parvenir les documents sur Montréal. Alors l'interprète me dit, bien, envoyez-moi ça à mon bureau. J'ai dit, ben, ça peut se faire au bureau, donnez-moi votre adresse. Ça paraissait défendu qu'on me donne l'adresse. Oui. Et le lendemain matin, avant de partir, à la cachette, la cachette m'a glissé un petit papier dans les mains, c'était son adresse. Ben, c'était des numéros de blocs,
le bloc C,
des ailes, des numéros. Alors ça, sur le plan social, c'est tout ce qu'il y a de plus déprimant.
C'est l'anonymat.
Et je voudrais justement que la rénovation urbaine se fasse, non pas en détruisant et en reconstruisant. Ça, ça donne bonne conscience aux riches.
D'accord.
Mais faire de la rénovation urbaine, ce n'est pas d'avoir bonne conscience. Ce n'est pas d'amener des visiteurs étrangers pour visiter des gros plans.
Des casernes.
J'en ai visité à Chicago. Parce qu'avant de pouvoir mettre au point sa philosophie sociale, tout cet aspect-là, c'est ça qui nous frappait le plus, mes collègues et moi. Et un jour, M. Soignemort était à Philadelphie, Chicago, New York, Boston. On est allé en voir, même à Washington. Et ce qui nous frappait tout le temps, c'était cette espèce d'étampe.
Le rassemblement de population.
De
grand complexe domiciliaire.
C'est ça. Et ça, on disait, sur le plan social, c'est pas bon. Les gens qui demeurent là, ils perdent leur identité. Ils deviennent des familles vivantes en série. Faut pas multiplier. Dans certains cas urgents, faut faire ça. Mais gardons ça au strict minimum. Pensons plutôt à rénover le logement, en évitant de changer la face de Montréal. Prenons là le cas de la famille qui vit. Et si la maison a l'air vieillotte, tant mieux.
Ça l'est pas.
Tant mieux.
Ça l'est bien
d'abord qu'elle est très saine. Ça donne du caractère à une rue. Pourquoi changer tout le caractère d'une rue pour finalement lui donner quoi? le même caractère que sur l'autrui, le même caractère que sur l'autrui. Gardons à nos quartiers de référence, gardons cet habitat qui est conforme à nos familles. Et c'est de ça dont s'inspire notre service d'habitation, notre service d'urbanisme, nos services municipaux. Et c'est l'inspiration que nous avons voulu pratiquer.
Vous parlez depuis un bon moment du logement, évidemment d'une façon très éloquente d'ailleurs. Est-ce que l'Hôtel de Ville va mettre sur pied un système plus efficace peut-être qu'il ne l'a connu jusqu'à date pour cette fois-ci attirer non plus du logement bien sûr, mais de l'industrie, de façon à compenser pour celles qui ferment jour après jour à Montréal, il y en a du diable, sait comment il y en a, depuis 4 ou 5 ans on ferme régulièrement, de façon à donner à ces gens-là, qui seront bien logés, l'opportunité quand même de travailler et de manger, de gagner de leurs propres mains leur vie et leur donner un caractère humain.
Dans toutes les grandes villes, il y a le même phénomène. Les grandes industries délaissent les grandes villes pour s'établir à la périphérie. Oui. Alors, de plus en plus, ce qu'on appelle la grande industrie va s'établir, a commencé d'ailleurs, à s'établir en périphérie. Etc. Alors, la promotion économique, la promotion industrielle devient et est appelée à devenir, et nous pensons bien qu'un jour prochain, la communauté urbaine verra que c'est une responsabilité en même temps qu'un avantage de toutes les villes de l'île de 100 ans. Et je ne crois pas qu'il y ait là un gros débat parce que ça sera l'avantage de toutes les municipalités. Il faut cependant, et c'est dans notre programme, prendre des mesures qui protègent l'expansion normale des industries établies ici et qui peuvent encore demeurer dans les limites de la ville. Et également, favoriser un climat propre aux investissements. Mais il faut être bien réaliste. Au fur et à mesure que Montréal se développe, au fur et à mesure qu'elle prend non seulement les dimensions physiques, mais psychologiques d'une grande ville, Montréal va devenir un peu plus une ville de grande administration. Alors, il faut des industries, mais il faut aussi des bureaux d'affaires. Parce que bien les ouvriers qui travaillent dans des usines, ont des enfants qui poursuivent des études plus avancées que le père et la mère, et entendent que leurs enfants travaillent dans des bureaux. Alors, il faut des travaux pour les travaux manuels, pour les travailleurs manuels, il faut aussi trouver de l'emploi pour ceux qui sortent des collèges et qui veulent travailler dans des bureaux. Alors, faire travailler les gens, ça n'est pas seulement penser à l'industrie, c'est penser à un ensemble d'emplois de diverses catégories. Et donc, on y parvient avant tout par un climat favorable. Et ça, je pense qu'on n'est pas obligé de rouvrir un débat sur un autre sujet. Il y a des facteurs qui travaillent contre ça, et on en parlera en temps et lieu jusqu'à quel point, on démontrera jusqu'à quel point ça travaille contre ça, ça nous rend la tâche encore plus difficile.
Monsieur le maire, en parlant de climat social, vous avez fait dans votre programme une de vos principales préoccupations d'attirer les touristes.
Oui.
À Montréal.
Ben, j'entre évidemment, ça dans la vie économique, d'ailleurs.
Le climat social, lui aussi, peut intervenir dans cette question, mais quels sont vos projets pour promouvoir davantage Montréal comme centre d'attrait touristique?
J'ai dit que Montréal a tous les facteurs exceptionnels qu'il faut pour devenir la première ville touristique du continent nord-américain. Je sais qu'il y en a encore qui vont dire ça, c'est de la manie de grandeur. Mais non, l'industrie touristique.
Quel est son apport dans l'économie?
Ben, c'est, je pense, la deuxième plus grande industrie de la province. Et voici une industrie qui ne nous demande pas d'investir, comme pour une aciérie, des centaines de millions de dollars. Des gens viennent ici passer quelques jours en voyage, viennent ici tenir des congrès, viennent par affaires, mais à cause de l'attrait de la ville, l'épouse vient, les enfants viennent, puis en profitent et allongent une journée ou deux, et ils apportent quoi? Ils apportent de l'argent qu'ils dépensent ici. Dans les hôtels où ils logent, dans les restaurants où ils mangent, oui. Dans les taxis qu'ils prennent, dans les transports en commun qu'ils utilisent, dans les magasins où ils achètent des vêtements ou des souvenirs. Et tout ça, ça fait fonctionner les grossistes, les manufacturiers, les fabricants de toutes sortes qui produisent pour vendre. Et non seulement pour vendre à Montréal, mais combien de choses sont fabriquées un peu partout dans la province et revendu ici. Alors, cette industrie-là, donc, me paraît être l'industrie que la Ville de Montréal peut et doit activer au bénéfice de toutes les classes sociales qui travaillent, parce que le service du tourisme, l'industrie touristique fait travailler et a des répercussions dans toutes les activités. Bon. Alors, pour ça, donc, on a des facteurs. On peut avoir un tourisme d'été. C'est le seul qu'on a vraiment développé jusqu'à présent. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne développe pas un tourisme d'hiver. Il y a tellement de gens qui partent d'ici en hiver pour aller voir l'été pendant qu'on est en hiver, qu'il n'y a pas de raison qu'on ne développe pas un courant qui permette à des gens qui habitent des pays, des villes où il n'y a que de l'été, 365 jours par année, de venir voir qu'est-ce que c'est que de la neige, puis qu'est-ce qu'on fait en hiver. Donc, on a deux saisons pour le tourisme. Il suffit de les mettre au point et d'organiser la mise en marché. Un des facteurs primordiaux pour la réussite, c'est pas seulement qu'on ait de la neige, c'est que de plus en plus, il faut donner un caractère français à Montréal.
Vous allez vous le demander.
Bon. Ça, c'est un caractère monnayable. C'est un caractère de fierté nationale, c'est un caractère de fierté individuelle, mais qui est monnayable. Et je suis convaincu que nos collègues, nos concitoyens d'autres origines sont aussi intéressés que nous à cette industrie.
C'est quelque chose de différent.
Bon. Et alors, je pense que ça devrait être l'argument principal du visage français de Montréal. À partir du moment où on prouve à des gens qu'on va faire de l'argent. Vous savez, on le dit souvent, il y a des Israélites qui ont fait des fortunes à vendre des médailles et des cierges à des catholiques. Ben, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient catholiques et qu'ils croyaient aux médailles et aux cierges. Mais ils faisaient de l'argent en vente. Ils en fabriquaient, ils en vendaient. Ben, je suis bien convaincu, moi, qu'à partir du moment où on prouvera, et c'est d'ailleurs commencé, les hôtels mettent beaucoup plus de Français dans les hôtels, hein, il y a un courant, déjà, de commencer, une reconnaissance que l'aspect français compte. Et d'ailleurs, pas loin de l'aéroport de New York, on voit tout de suite, et de Chicago plutôt, on voit tout de suite là, une grande affiche, là, le long de la route, en anglais, vous êtes à 2 heures de Paris, Montréal. Bon. Aux États-Unis, donc, des sociétés d'avions qui viennent à Montréal utilisent ça. Pourquoi ne pas l'utiliser? Et si on veut l'utiliser, il faut que ça soit Montréal ait un caractère français. La lutte pour la refrancisation de Montréal sera d'autant plus facile que ça sera monnayable.
Quels sont les moyens dont dispose, excusez-moi, l'administration municipale pour convaincre, parce qu'il s'agit, je pense, bien de convaincre, les entreprises, les commerces, de se franciser, donner un aspect plus français aux rues de Montréal?
Nous avons déjà procédé à modifier des noms de rues.
Oui.
Bon. C'est plus compliqué qu'on pense parce qu'à cause des examens de titre, à cause des situations juridiques, on me dit souvent, pourquoi pas changer le nom de la rue Sherbrooke? Étant donné toutes les transactions qui ont eu lieu à caractère juridique, étant donné tous les documents officiels qui sont répartis un peu partout dans le monde à cause de ces transactions-là, c'est toujours très difficile de changer une rue importante. Ça, il faut tenir compte de ça. Je ne dis pas que ça ne sera jamais changé.
Sur Maisonneuve, vous l'avez fait.
Oui. Là, la grande raison, c'est qu'on a réuni 4 rues qui étaient dans le même axe et qui portaient 4 noms différents. Et même, je dois dire que la ville de Westmount a accepté par son conseil municipal de changer le nom de rue Western Street, pour boulevard Maisonneuve. Même là, quand vous dites comment allons-nous réussir, je pense que quand on discute bon sens, puis qu'on discute que c'est monnayable, on réussit. Il faut prendre le temps de le faire.
Est-ce que la ville serait prête à aller, par exemple, comme ça s'est fait à Québec, je pense, dans la rue Saint-Louis, jusqu'à subventionner ou aider les commerçants, par exemple, à modifier leurs enseignes?
Bien, dans la mesure où c'est monnayable, dans la mesure où ça leur rapporte, si on leur prouve que ça va les payer de faire ça, je ne vois pas pourquoi en plus on leur donnerait de l'argent pour le faire.
À Québec, on avait mis sur la route, si je me souviens bien, des équipes d'employés municipaux qui allaient voir les commerçants un par un et qui leur expliquaient. Est-ce que vous prévoyez de faire quelque chose de semblable?
Oui. Nous avons mis sur la route, lorsqu'il s'est agi d'entreprendre la grande campagne, mais à l'année longue d'embellissement de la ville, nous avons mis sur la route des équipes de jeunes, et des étudiants et des gens du service de l'urbanisme, du service d'inspection de la ville, et de l'office d'embellissement, des gens qui sont allés voir des propriétaires. Nous leur avons même suggéré des dessins pour montrer comment embellir à peu de frais, comment repeindre leur maison pour que ça soit un peu plus joli, comment assurer la propreté. Eh bien, moi, je vous dis que nous sommes prêts à aller jusque-là. Ça se fait graduellement.
Voici, il ne faudrait même pas vous laisser partir sans parler un peu de finances, vous savez. Est-ce que les finances de la ville à l'heure actuelle permettent d'envisager de très grands travaux et est-ce que le citoyen peut prévoir que, par exemple, le taux des taxes peut demeurer sensiblement le même pour les années à venir?
Nous entendons continuer la même politique financière qui a été appliquée par le Parti civique au cours des 10 dernières années. Il faut tenir compte de la capacité de payer, il faut tenir compte qu'il faut continuer la lutte pour des modifications d'ordre fiscal, il y a des modifications apportées. Et jusqu'à présent, il y en a eu. On n'entre pas dans les détails, mais il y en a eu. Et donc, il peut y en avoir encore. Et aussi de certains accords spécifiques dans des projets qui bénéficient soit un groupe de municipalités, soit, comme dans le cas de Terre des Hommes, la province a fini par admettre que sur le plan touristique seulement, c'était payant pour elle, Terre des Hommes, et c'est pourquoi la province a accepté, sous l'ancien gouvernement et sous le nouveau, de contribuer de 5 millions de dollars au déficit à cause des taxes qu'elle perçoit. Donc, il y a des accords à conclure, il y a des réformes fiscales que nous allons continuer de promouvoir, et il y a la surveillance de la capacité de payer.
Justement, vous parlez de Terre des Hommes, d'après vous, avec la nouvelle formule gratuite telle que préconisée récemment, quel est l'avenir de Terre des Hommes à votre vue?
Quand nous avons lancé Terre des Hommes, nous avons dit qu'il s'agit d'une entreprise colossale. Et tous ceux qui ont lancé des grandes entreprises savent que ça prend 3 ans d'exploitation pour connaître les tendances. Alors nous avons dit pendant 3 ans, nous allons exploiter Terre des Hommes avec une formule et des structures qui ressemblent le plus possible à celle d'Expo 67. Et après ça, nous verrons. Là, il nous paraît que le moment est venu de modifier la formule et de dire les gens pourront entrer, se rendre dans les îles sans payer de prix d'admission. Et rendu là, il y aura certaines choses gratuites et certaines choses payantes. Et les gens, au lieu d'avoir à payer, disons que le mari et la femme veulent aller après le souper faire une visite dans les îles, au lieu d'avoir à payer, s'ils n'ont pas un visa de saison, 2,5 $ chacun, ben, ça ne leur coûtera rien pour se rendre. Et s'ils veulent visiter des pavillons gratuits, ils en visiteront. S'ils veulent visiter des pavillons payants à 50 sous, ben, s'ils veulent dépenser 2 $ ce soir-là, ils dépenseront 2 $ S'ils veulent dépenser 1 $ ils dépenseront 1 $ S'ils veulent ne rien dépenser, ils dépenseront rien du tout.
Ça veut dire que quand même, les installations que l'on voit présentement resteront intactes ou s'il y aura des modifications importantes?
Les installations, les bâtiments resteront intacts. Une chose est certaine, là, c'est que nous allons voir à ce que les pavillons présentent des expositions de grande valeur. À partir du moment où l'accès est gratuit, là, il y a 70 bâtiments. Supposons qu'il y en aurait, disons, 35 de fermés. Ça ne sera pas grave. Les gens ne seront pas privés parce que ça ne coûte rien pour se promener. Et il y aura quand même 35 pavillons visités. Si on peut en avoir 70, on aura 70. Mais il faudra que ce soit, et avec un an, si on n'en ouvre pas 70 la première année, il y aura suffisamment à voir, suffisamment d'intérêt pour justifier la visite dans les îles, parce que c'est le plus beau parc du monde. Et puis, il y aura suffisamment de pavillons pour que les touristes qui, eux, viennent une journée ou deux, puissent visiter suffisamment. Et les touristes qui payaient, eux, 2,5 $ en laisseront 5. Parce qu'au lieu pour 2,5 $ de visiter tout gratuitement, s'ils sont obligés de payer, le touriste lui quand même dépensera 5 $ pour sa journée, c'est pas cher. Mais si les touristes payent, dépensent 5 $ chacun au lieu de 2,5, on en tire un profit.
Mais la formule est attrayante, M. le maire, mais il faudrait tout de même pas qu'elle augmente le déficit de l'opération.
Ça aussi, ça a été examiné. Ça a été examiné, justement, et il nous a paru, les études que nous avons faites, quand je dis nous, c'est avec des gens qui s'y connaissent. Et nous sommes arrivés à conclure qu'il sera plus facile de financer dès la première année et nous pouvons nous attendre à ce que cette formule-là rende avec le temps Terre des Hommes à peu près rentable.
En équilibre.
En équilibre, en budget équilibré, mais avec le temps.
Monsieur le maire, il y a plusieurs semaines, nous avons reçu à cette même tribune M. Saunier qui nous disait que une des grandes réalisations, enfin, ce dont il était fier, c'était de constater que la population, les Montréalais, étaient fiers de leur ville. Vous ne craignez pas qu'il y ait des choses qui...
La fierté, c'est... Oui, on est fiers, mais c'est un handicap pour une administration. Parce que les citoyens, maintenant, qui savent qu'une ville, grande ville comme Montréal, peut être tenue propre, qui savent que la neige, ça s'enlève alors qu'ils étaient habitués à ne pas l'avoir enlevée, ben aujourd'hui, quand la neige ne s'enlève pas presque en même temps qu'elle tombe, les citoyens protestent. Hein? Alors, c'est de la fierté. Mais c'est une fierté qui doit continuer de fouetter par la force des circonstances des administrations.
Maire, en parlant de fierté, si on vous demandait, à vous le bon point, quelle est la chose que vous avez accomplie depuis que vous êtes maire dont vous êtes le plus fier, que nous répondriez-vous?
Je dis toujours la même réponse, parce qu'on l'a oublié, ça fait 10 ans, la réorganisation du service de la police. Sans quoi, rien de ce qu'on a connu depuis 10 ans n'eût été possible.
Et si on reste sur le même sujet de tout ce que vous proposez d'entreprendre, de quoi seriez-vous le plus fier dans le programme que vous nous présentez?
De réaliser ce grand rêve. On a dit souvent que j'avais des rêves, mais c'est le public qui a des rêves et j'essaie de les réaliser, les rêves du public. C'est de détruire cette image ou cette ombre à l'image que je projette, que l'aspect social, je n'y intéresse pas. J'ai fait mes études en droit et pour gagner mes études, j'ai travaillé au ministère du Travail et je faisais des enquêtes pour les pensions de vieillesse, mères nécessiteuses et aveugles. Et comme j'avais une bagnole que j'avais payée 112,5 $, je visitais toute la ville. Je sais ce que c'est que la misère. Je suis entré dans des familles pour faire enquête pour les pensions de mères nécessiteuses et j'ai vu des bébés couchés dans des tiroirs de bureaux, de commodes. J'ai vu des familles où il n'y avait vraiment pas de lait pour le bébé. Et j'ai dû parfois traverser la rue, aller au petit restaurant d'en face, acheter une pinte de lait et la laisser avant de partir, après avoir complété mon enquête. Alors, ça m'a marqué. Et je rêve que, au moins, si le prochain mandat m'est accordé, qu'on pourra dire, c'était faux. C'était une